Chapitre 36. Samuel. Juin 2019. Il a plu, mais désormais le soleil brille et ricoche sur la chaussée, tandis que nous nous approchons de la Tamise. Notre gyrophare tourne paresseusement, sans sirène, non pas pour signaler aux autres automobilistes une situation d'urgence, mais afin au contraire qu'ils sachent qu'il y a bien une raison pour que la voiture devant eux roule à 20 km/h. Soudain, une longue rangée de maisons impressionnantes se dresse devant nous, de taille et de couleurs variables, retranchées de la route principale derrière un petit jardin privé. Sur mon téléphone, je regarde la capture d'écran de la maison tirée du clip.
« Tu peux tourner ici, Donald ?
On peut entrer, non ?
Oui, là, merci. »
Nous avançons dans l'allée entre les grandes demeures et le jardin privatif, et Donald se gare. Sur une plaque fixée à un muret, je lis le nom de la voie, Shane Walk.
C'est laquelle ?
Je lui montre la photo et désigne du doigt une bâtisse devant nous. La maison ne ressemble plus vraiment à celle de la vidéo. Elle est envahie par la végétation, le jardin croule sous les gravats, les fenêtres sont sales et les vitres pacifiées par la poussière. Nous sortons de la voiture. Je défroisse ma veste, tire sur mes manches. Donald ne porte pas de veste, seulement un blouson et un pantalon qui sont un peu trop petits pour sa corpulence, à mon humble avis. Nous avançons vers la porte d'entrée et nous engageons sur un petit chemin parsemé de détritus et partiellement recouvert d'herbes et de mousse. Un chien aboie et un homme vêtu d'un survêtement noir et gris ouvre la porte. Le chien est gros, mais reste calme, ce qui me tranquillise. « Bonjour. » « Je suis l'inspecteur Owuzu, et voici mon collègue, le lieutenant Muir. Nous travaillons pour la police judiciaire de Charing Cross. Nous enquêtons sur un homicide assez ancien, et nous avons lieu de penser que cette propriété pourrait être liée à cette affaire. Êtes-vous le propriétaire, monsieur... »«
Monsieur Wolfensberger, Oliver.
Oui, c'est ma maison. » Il a un accent qui me semble africain. J'imagine donc qu'il est sud-africain, puisqu'il est blanc.
« Vous voulez entrer ?»
Je comprends immédiatement qu'Oliver Wolfensberger ne sait rien d'intéressant, mais du genre curieux. Et quelqu'un qui vous invite aussi facilement chez lui n'a soit rien à cacher, soit au contraire quelques secrets bien dissimulés. Je soupçonne fortement M. Wolfensberger de faire partie de la première catégorie. À l'intérieur, la maison est également bien différente de celle du clip. Il n'y a plus d'animaux empaillés au mur, plus de lustres rutilants, pas de tapis à motifs courants au centre de l'escalier, pas de trône en velours. C'est complètement vide. L'air est chargé de poussière et d'acariens qui scintillent dans les rayons de soleil. Le papier peint soyeux pend en lambeaux, des lattes de parquet brisées craquent sous nos pas.
Elle était abandonnée depuis plus de 2 décennies. On a récupéré les clés il y a 2 semaines et on va bientôt commencer une grosse rénovation. D'ailleurs, j'attends l'architecte d'une minute à l'autre. Elle ressemble à ça depuis 25 ans. C'est triste, non ?
Oliver Wolfensberger nous guide jusqu'à la cuisine, la seule pièce encore meublée. Il y a une table en piteux état et 2 longs bancs. Nous nous y installons et il nous sourit.
« Alors, » entame-t-il la main posée sur la tête de son chien, « je suis très intrigué. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ?»«
Nous enquêtons sur le possible homicide d'une jeune femme nommée Bridget Dunlop-Evers, il y a environ 25 ans. Ses restes ont été retrouvés sur les berges de la Tamise la semaine dernière, mais elle est décédée depuis bien plus longtemps. Sa famille ne sait rien concernant sa disparition. » Ils n'étaient plus en contact quand c'est arrivé. Mais ils savent qu'à un moment, une amie de Bridget, qui possédait une très grande maison, a proposé de l'héberger. Madame Dunlop-Evers faisait partie d'un groupe de musique, et il semblerait qu'un de leurs clips ait été tourné ici quelques années avant sa mort. Regardez. Je tourne mon portable vers M. Wolfensberger et lance la vidéo YouTube. Il frétille d'excitation.
« Oh, mon Dieu! Mais oui, c'est ma maison! Ah, incroyable !»
Vous vous souvenez de cette chanson ?
Non, malheureusement. Mais ma femme sans doute, Kate. Elle travaille dans l'industrie musicale. Elle est très cultivée. J'ai tellement hâte de la lui montrer, ça va la rendre folle.
Ajoute-t-il avant de pointer mon téléphone du doigt.
C'est laquelle ?
Je fais pause quand Birdie entre dans le champ. Elle, Bridget, la violoniste.
Waouh, c'est dingue ! Mais elle est...
Oui, nous avons la certitude qu'elle est morte. Et il est possible que cette propriété soit la demeure qu'elle avait mentionnée à sa famille, celle dans laquelle elle se serait installée. Est-ce que vous avez des informations sur l'histoire de cette maison ? À qui l'avez-vous achetée déjà ?
À une jeune femme, une très jeune femme, 25 ans. Ses parents la lui avaient léguée, mais ils... Mon Dieu, oui, ils sont morts ici, dans la cuisine. Et on l'a retrouvée seule à l'étage, un tout petit bébé.
Oliver Wolfensberger frissonne.
Une histoire tragique, reprend-il. Elle a été adoptée et n'a découvert l'existence de la maison qu'à ses 25 ans. Elle est restée sur le marché un petit bout de temps à cause de son mauvais état, et à cause de son passé sans doute. Vous comprenez ?
Je hoche la tête parce que je commence à très bien comprendre, en effet.
Que savez-vous sur la mort de ses parents ?
Pas grand-chose. Je crois qu'ils se sont suicidés. Une histoire de secte et de pacte. Un fait divers atroce. Absolument atroce. Certaines personnes estiment que la maison est maudite. Mais je ne crois pas à ce genre de sornette, moi. Je suis quelqu'un de très positif, vous savez. Je suis ici pour réécrire cette histoire tragique, l'ensevelir. Mais j'y pense quand même. Tant de tristesse. Cette pauvre petite fille, un bébé, laissée toute seule. Quelqu'un a écrit un article sur l'affaire, vous savez. Un journaliste a mené l'enquête. Je ne l'ai pas lu parce que je ne veux pas entacher ma vision des lieux. Mais c'était paru dans le Guardian il y a quelques années. Nous ne vivions pas au Royaume-Uni à cette époque, et donc je ne sais pas grand-chose de plus. Mais vous pourrez sans doute le retrouver.
Le Guardian, répétai-je en prenant note dans mon carnet. Merci. Et le nom de cette jeune femme qui vous a vendu la maison, vous vous en souvenez ?
Oui, bien sûr. Elle s'appelle Libby Jones.
Libby Jones. Vous avez ses coordonnées ?
Non, malheureusement. Elle ne vit pas à Londres, je ne crois pas en tout cas. En banlieue peut-être.
Très bien. Est-ce que ça vous dérange si on jette un coup d'œil à votre maison, juste pour avoir une meilleure idée des lieux ? Expliquai-je en tapotant ma tempe.
Bien sûr, allez-y.
Nous le suivons dans l'entrée.
Faites comme chez vous, explorez. Ouvrez ce que vous voulez. Je reste en bas si vous avez besoin de moi.
Le chien gris et blanc nous suit avec entrain. J'ai presque l'impression que c'est lui qui nous fait visiter. Donald le caresse, mais il est un peu trop grand à mon goût. S'il mesurait une tête de moins, je me sentirais plus à l'aise. Une symétrie poétique règne dans la maison. Chaque élément a son propre reflet. Il est très aisé de se repérer de pièce en pièce, d'étage en étage. Il y a quatre chambres et quatre salles de bain au premier. Les fenêtres des pièces du fond donnent sur le jardin. J'observe les arbres et je prends quelques photos pour notre botaniste, puisque bien entendu, je ne saurais pas faire la différence entre un platane commun et un faux vernis du Japon. Une cage d'escalier plus petite mène au dernier étage. Ici, les plafonds sont bas, et un long couloir étroit traverse la maison. Chaque porte ouvre sur une chambre en sous-pente, avec des fenêtres qui donnent sur la rue ou le jardin. Donald m'appelle.
« Chef, regardez !»
m'indique-t-il en montrant du doigt la plinthe quand j'entre dans la pièce. Une inscription est gravée dans le bois. Je m'accroupis et déchiffre les mots. Je suis fine. Je prends une photo. Dans le couloir, une petite échelle en métal est fixée au mur, et il y a une trappe dans le plafond. Je grimpe après le postérieur imposant de Donald, et nous émergeons sur un petit toit terrasse. Je prends de nouvelles photos des arbres alentours. De longs chéneaux courent entre les toits, même si c'est l'été. Il regorge de feuilles mortes que je déplace doucement du bout des pieds. Il y a de la végétation en décomposition en dessous. Je m'avance vers une cheminée en piétinant le compost et jette un coup d'œil derrière. Je découvre une autre travée pleine de feuilles mortes et de mousse, mais ici, on dirait que les végétaux ont été déplacés récemment. Je prends tout cela en photo et nous redescendons dans la maison. Oliver Wolfensberger nous raccompagne à la porte et nous assure qu'il fera tout son possible pour nous aider. Il nous donne le nom de l'office notarial qui s'occupait de la maison avant que Libby Jones en hérite. Puis il m'autorise à prendre d'autres clichés de la façade de la maison et des arbres présents dans le jardin privé en face. Nous marchons jusqu'à la voiture. Donald s'installe derrière le volant et boucle sa ceinture. « Van Piache ?» s'enquiert-il. Je pousse un grognement neutre. « Je suis sûr, à 90%, que Bridget Dunlop Evers est morte dans cette baraque. « Vraiment ?»« Oui, pas toi. » « Il y a quelque chose, oui. C'est clairement une possibilité. » Je hoche la tête. « Je voudrais que tu me déposes à l'office notarial, s'il te plaît, Donald. C'est à Pimlico, on est à côté. Et si tu pouvais ensuite retourner au bureau, me trouver cet article du Guardian, ce serait parfait. Déjà, j'envoie ces photos à notre botaniste, et j'espère que d'ici la fin de la journée, on aura fait un pas en avant. Un pas de géant même. »